collecte et analyse des données. Les cas d'usage pour l'optimisation de la plateforme sportive. Une première présentation de Yann Dalapria, maître de conférence AVR, directeur du Master 1 de Management des organisations sportives à l'Université de Paris-Nanterre et également membre fondateur de l'Observation du sport en entreprise. Il sera accompagné de Elias Koulibaly, rugbyman professionnel au rugby club de Suresnes et international ivoirien. Et ensuite, Karl Etiassi, champion de France aux 50 mètres et aux 100 mètres, finaliste et demi-finaliste au championnat du monde à Melbourne en 2022 en bassin de 25 mètres, et participation au championnat du monde et d'Europe 2022 en bassin de 50 mètres. Je vous remercie.
Merci beaucoup Eva pour ces quelques mots d'introduction. On va poursuivre donc l'exploration des liens entre sport de haut niveau et numérique en s'intéressant à présent, dans cette deuxième partie de matinée, au regard que les sportifs d'élite eux-mêmes portent sur cette question. Alors pour introduire cette séance, j'aimerais commencer par souligner que le sport de haut niveau, qui n'a cessé de se développer depuis le milieu du 19e siècle, représente la partie la plus visible du sport. En raison de sa forte exposition médiatique, il incarne en outre, plus que d'autres formes de pratiques sportives, les valeurs dont on affuble généralement le sport, et en particulier les valeurs de performance individuelles et collectives. Courir plus vite, plus longtemps, sauter plus haut, plus loin, marquer plus de buts, plus de points, etc. En fait, comme le souligne l'historien du corps du sport, Georges Vigarello, aucune autre institution ne manie aussi finement la mise en image des performances et des résultats. Aucune ne désigne avec autant de précision la place que chacun, la place, pardon, de chacun au travers des classements, des tableaux de résultats, des podiums, des divisions, des rangs ou des records. Ainsi, le succès du sport de haut niveau ne vient pas seulement des valeurs de performance et de dépassement qu'il prétend incarner, mais aussi de la clarté avec laquelle il les incarne et de son organisation tout entière tournée vers le mieux, c'est-à-dire vers un idéal d'amélioration de soi, mais aussi plus généralement d'amélioration de l'espèce humaine dans sa globalité. Les sportifs de haut niveau, en tant que travailleurs, expérimentent au quotidien, autant qu'ils l'incarnent, cet idéal d'amélioration de soi. Et les dispositifs mis en œuvre par les staffs pour sélectionner les profils les plus prometteurs, on en a parlé juste avant, et optimiser leur préparation, accompagnent leur trajectoire vers le succès en construisant méthodiquement ce que l'on appelle la performance. Le sport de haut niveau est ainsi plus que du sport. Il est un laboratoire des possibles, c'est-à-dire un lieu de développement et d'acculturation aux nouvelles technologies de la performance. C'est aussi pour cette raison, et pas seulement pour les records qu'elles aident à construire, qu'il est important d'étudier la diffusion des technologies numériques dans le sport de haut niveau, où leur déploiement est mieux accepté et leur efficacité plus facilement objectivable. Cet univers du sport de haut niveau préfigure en effet à de nombreux égards leur diffusion dans le reste de la société. En témoigne par exemple le cas d'Amazon et de son data-driven management, où les employés idéaux sont désignés par le terme justement d'athlète. Dit autrement, le sport de haut niveau est aujourd'hui la matrice dans laquelle se forgent la femme et l'homme de demain à grand renfort de technologies numériques. C'est à la dimension concrète de cette anthropofacture, c'est-à-dire fabrique de l'humain, pour reprendre les termes du philosophe Robert Heidegger, que nous allons à présent nous intéresser au travers des témoignages de deux sportifs de haut niveau, Karl Aïkassi, à ma droite, et Elias Koulibaly, à ma gauche, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette conférence de la chaire Gouverner l'organisation numérique. Alors, un petit mot pour vous présenter tous les deux. Karl, vous avez 22 ans, vous êtes nageur aux Étoiles 92, club domicilié en temps normal à l'Université de Nanterre, actuellement nomade en raison des travaux sur le campus. Vous rentrez juste des championnats de France de natation, vous avez glané un titre de champion de France sur 50 mètres brasse. Vous avez en outre participé au championnat du monde 2022 en bassin 25 mètres à Melbourne et en bassin 50 mètres à Budapest. Vous riguez actuellement une place pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Vous êtes parallèlement étudiant en troisième année à l'ESSIL, école d'ingénieurs localisée à La Défense. Elias, vous avez également 22 ans, c'est bien ça? Voilà. Vous avez démarré le rugby à l'âge de 5 ans au Racing 92, où vous avez suivi toutes les catégories de jeunes jusqu'à l'âge de 17 ans, âge auquel vous avez signé votre premier contrat jeune, et avant de jouer 3 ans dans la catégorie espoir du Racing 92, puis d'être recruté en tant que joueur professionnel à Suresnes en national, où vous occupez le poste de pilier et pilier gauche, on y reviendra, et vous êtes également international ivoirien. Parallèlement, vous êtes étudiant à l'Université de Nanterre en deuxième année à l'UFR de droit. Alors, peut-être une première question pour cadrer les échanges qui vont suivre. Est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, je commencerai peut-être par vous, Elias, nous dire quelles données numériques sont collectées dans votre sport, le rugby, et quel dispositif vous utilisez pour cela? Peut-être je vous laisse prendre le micro.
Et déjà bonjour à tous. Alors nous, ça rejoint un peu ce qui a été dit depuis le début de cette matinée. On a affaire à des GPS, donc ce qu'on met dans les brassières, comme a été dit tout à l'heure, pareil pour les clubs de foot. Et on a aussi, donc, dans le staff du RC Suresnes, on a 5 prépas physiques. Donc, un qui est chargé donc, de faire le lien avec le staff médical. Un qui est avec le staff sportif, donc avec les deux coachs. Donc, lui, il s'occupe plutôt donc, de récupérer toutes les données GPS en live, donc pendant les entraînements. Et un et trois autres, du coup, qui s'occupent des blessés et qui sont en lien avec le data analyst et le caméraman. Du coup.
Alors, sur le GPS, peut-être dites-en un petit peu plus sur les données, la nature des données qui sont collectées et peut-être l'usage qu'en effet.
Et nous, on utilise le GPS pour récolter les mètres parcourus pendant les entraînements. On récolte aussi les mètres à haute intensité, donc c'est-à-dire les courses au-dessus de 18 km/h, le nombre de sprints et le nombre d'accélérations.
D'accord, merci. Alors, Karl, pour vous, le GPS fait probablement moins sens dans votre sport, la natation, mais votre sport a développé un arsenal impressionnant de dispositifs numériques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot?
Bonjour à tous, déjà. Oui, c'est clair, c'est pas aussi répandu que sur des sports terrestres tels que le foot ou le rugby. Mais comme vous l'avez dit, on a eu pas mal de développement sur ça. On a par exemple, bon, je ne l'ai pas avec moi malheureusement, mais on a des capteurs en fait qu'on met sous le bonnet et ça équivaut à des GPS pour le foot et ça va calculer en direct notre rythme cardiaque afin de pouvoir adapter notre cardiaque en fonction de la séance demandée, donc être dans une bonne zone d'intensité. On a notamment des ceintures électroniques avec lesquelles on va utiliser, on va faire un HRV, en fait, c'est pendant 10 minutes, on va analyser, l'analyse va analyser la variabilité du cœur, et à la suite de cette analyse, va nous montrer si on est en forme ou pas en fonction de ce qu'on a fait la journée. On a notamment, je sais plus ce que j'avais mis aussi. On a pour la musculation, on utilise un VBT. En fait, c'est un instrument qui va permettre de calculer la vitesse de la barre. Donc, par exemple, encore une fois, en fonction du travail demandé, on a une vitesse de barre demandée aussi.
Alors, à la musculation.
Oui, ça c'est la musculation du coup. Et après, bien sûr, il y a l'analyse vidéo, puisque c'est vrai que l'orientation, bah, on voit souvent tout ce qui se passe au-dessus, mais le plus important, c'est ce qui se passe sous l'eau. Donc, la vidéo est très importante pour nous, parce qu'on ne voit pas forcément, on voit que notre perception, et c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, parce que c'est vrai que le coach est présent, mais sous l'eau, forcément voir. Donc, la vidéo est très utile, bien sûr.
Alors, est-ce que vous pouvez, Karl, nous expliquer plus concrètement comment ces dispositifs ont contribué à la construction de votre performance sportive?
pouvez nous donner quelques exemples?
Oui, bien sûr. Bah, par exemple, à l'approche des championnats, on va en plus contrôler, par exemple, le HRV. Donc, le HRV, on le fait le lundi matin.
Alors, HRV, heart.
Heart
rate variability.
Donc, la variabilité du cœur. Encore une fois, ça va être, par exemple, de pouvoir nous guider sur le week-end quand on a de la récupération. Ça va pouvoir nous montrer si on est en forme le lundi. Par exemple, si le week-end, je ne fais pas grand-chose, je reste devant la télé, mais pas bouger, bah, mon HRV va être moyen. Alors que si, par exemple, je fais une sortie vélo tranquille ou je marche le week-end, je vais avoir un meilleur HRV. Donc voilà, ça va permettre de nous apporter des données sur comment agir lors des sessions de récupération. Après, sur le capteur, le coach en fait a nos données directement sur une tablette et pendant l'entraînement, il va pouvoir voir en direct notre rythme cardiaque. Et encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, on va pouvoir adapter en fonction des séances d'entraînement. Donc par exemple, si c'est une séance d'aérobie, donc assez longue, on va plus être sur un rythme de un rythme cardiaque assez faible. Et si c'est des séances d'intensité, voilà, on va essayer de se projeter plus sur un rythme cardiaque assez élevé pour être dans la bonne intensité.
Alors, est-ce que j'ai entendu que ce contrôle de votre rythme cardiaque que vous réalisez régulièrement avait contribué en fait à, j'ai envie de dire, transformer vos dimanches. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce point-là?
Je trouvais globalement que, enfin, c'est plus le week-end où on vient de récupération, que, en fait, quand on parle de récupération, souvent on pense à. Moi, je pensais en tout cas à ne pas faire grand-chose, à rester passif, mais voilà, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de rester actif. Et voilà, ça va permettre d'être plus en forme le lundi matin à l'entraînement. Parce qu'on a pu voir que quand je restais passif, bah, lundi matin, c'était assez dur de se mobiliser, d'être tout de suite disponible dans l'eau, alors que quand je restais plutôt actif dans le week-end, l'entraînement passait plus facile le lendemain.
Elias, comment, de votre côté, le GPS que vous utilisez à l'entraînement et en compétition, vous a-t-il permis d'améliorer vos performances? Parlez-nous de la fameuse zone Z.
Alors, nous, donc, on porte le GPS en match et à l'entraînement. Et il y a un truc qui s'appelle le temps de jeu effectif pendant les matchs. Donc, chez nous, à Suresnes, il tourne autour de 40 minutes de temps de jeu effectif. Donc, c'est le moment où le ballon est en circulation. Et donc, pendant ce temps de jeu effectif, on a, je dis, par exemple, on court 500 mètres à haute intensité. Et donc, les entraînements qui vont se rapprocher le plus du match, donc les entraînements à haute intensité, devront avoir pour objectif, les joueurs auront pour objectif de courir 500 mètres à haute intensité. Et donc, c'est grâce au GPS et grâce aux données récoltées en temps réel, on sait si on est dans la zone donc Z6, donc la zone des 500 mètres à haute intensité. Le GPS, ça nous permet aussi de prévoir les blessures. Donc, on a des objectifs avant chaque entraînement. On a donc la zone Z6, mais aussi le nombre de mètres parcourus à ne pas dépasser. Donc, pour certains postes, il y a différents postes au rugby, mais il y a deux grandes catégories. Il y a les avants, donc de numéro 1 à 8, et ensuite les trois quarts, donc de 9 à 15. Les trois quarts sont plutôt les joueurs qui courent et les avants sont plus les joueurs forts. Donc pour les avants, on a un objectif de 3 km par entraînement à courir. Donc pendant ça, c'est juste pendant l'entraînement collectif. Et les trois quarts ont 5 km à courir pendant l'entraînement collectif. Et donc avec ces GPS, on sait si on est dans la zone.
Et si on n'y est pas.
Et si on n'y est pas, et bien à la fin de l'entraînement, on a des courses à rattraper.
D'accord, ou pour rattraper.
C'est ça.
D'accord. Alors, Elias, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'usage que vous faites de la vidéo?
Alors, nous, tous les entraînements sont filmés. Donc, on a trois caméramans. Donc, un qui pilote le drone et deux caméramans. Un qui est derrière une longue caméra qui est posée derrière l'embut. Et un caméraman au centre du terrain qui filme en contre-plongée. Tout le terrain. Et donc tous nos entraînements sont filmés. Tous les jours, on commence notre journée par une séance vidéo. Et tous les donc la séance vidéo pardon est faite par les coachs et toutes les après-midi c'est des séances individuelles donc dans une sauce dans une salle avec des ordi qui sont mis à notre disposition.
D'accord. Alors ce week-end, Elias, il pleut, on joue à Bourgoin. Quelle stratégie est-ce que vous adaptez?
On va regarder comment Bourgoin joue sous la pluie. Et en général, on utilisera beaucoup le jeu au pied pour favoriser les en avant. Et donc, on va travailler et le jeu au pied et notre mêlée. Parce qu'à la suite, dans l'en avant, au rugby, c'est...
Ok, merci. Karl, de votre côté, la vidéo, comment est-ce que vous l'utilisez?
Donc, nous, on utilise la vidéo à l'entraînement et aussi en compétition. Donc, je commence par les compétitions. Donc, les compétitions, généralement, sont filmées. Donc, vidéo extérieure. Et ensuite, la fédération va pouvoir faire des analyses dessus, c'est-à-dire qu'on va avoir la vitesse par section, donc tous les 5 mètres, le nombre de coups de bras, la fréquence, l'amplitude, donc tout va être analysé. Donc on aura un retour très spécifique sur notre course. On va ensuite, par la suite, à l'entraînement, pouvoir travailler tout ça. Et ensuite, à l'entraînement, c'est plus une caméra sous-marine, comme je l'ai dit, qui va permettre d'ajuster notre mouvement tout simplement en fonction de notre vitesse, notre technique. Donc c'est un outil très important pour nous. Et voilà.
Merci. Alors peut-être à tous les deux pour terminer sur cette question de la construction de la performance sportive. Est-ce que les datas qui sont collectées par vos staffs, par vos entraîneurs, etc., permettent, outre le fait qu'elles permettent de construire des entraînements sur mesure, personnalisés, qui vous amènent à donner le meilleur, j'ai envie de dire, de vous-même au quotidien, est-ce que vous avez le sentiment que ces datas-là permettent de construire une performance à moyen et long terme? C'est-à-dire, par exemple, de programmer un pic de forme au moment, à l'approche d'une compétition importante ou voilà.
Oui. Moi, je pense que oui. On sait que nous, au rugby, le pic de forme arrive à la fin des 2 mois de préparation physique, donc pendant la pause estivale. Donc là, en fait, si je prends mon exemple, j'étais 1 mois en vacances, je reprends la semaine prochaine, mercredi, et là, on part sur un mois et demi de préparation, donc sans vraiment toucher du ballon au début, donc beaucoup de préparation physique, beaucoup de musculation. Et donc à la fin de ce mois et demi, on a deux matchs amicaux, et ensuite le premier match de championnat. Donc on sait qu'au premier match de championnat, on aura atteint notre pic de forme. Et donc les données qui vont être récoltées pendant ce premier match de championnat vont nous suivre tout au long de la saison et seront un peu nos données références pour le reste de la saison. Donc en fait, tout au long de la saison, nous allons essayer de se rapprocher de ces données-là pendant les matchs.
Me concernant, nous, ça va être plus des données prises quotidiennement, qu'on va mesurer chaque jour un peu tout ça. Donc, nous, c'est pas trop dans l'optique d'une préparation. Après, bien sûr, le coach prépare pour chaque compétition, mais concernant les objets numériques utilisés, on les utilise plus quotidiennement.
D'accord. Elias, est-ce que les données collectées peuvent être utilisées en vue de prévenir des blessures, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, ou de sécuriser un retour à l'entraînement?
Tout à l'heure, je parlais de charge d'entraînement. On sait que le lundi, en retour de match, on va faire moins de courses que par exemple un mardi où on fait un entraînement à haute intensité. Donc en fait, en regardant en live pour le prépa physique les données GPS, donc le nombre de mètres parcourus à haute intensité, il peut donc aller voir le coach pour réguler et donc pour prévenir les blessures.
Alors, je continue avec vous, Elias. Pendant longtemps, le rugby de haut niveau a tout prévu, tout mesuré, tout calculé, etc. Il a juste oublié un point, c'est que les joueurs avaient un cerveau et que ce cerveau était fragile. Oui, évidemment, à quoi je fais référence. En 2012, si ma mémoire est bonne, on introduit le protocole commotion. Est-ce que le numérique a quelque chose à dire aujourd'hui sur cette problématique qui est toujours sensible dans l'environnement du rugby?
Et vous l'avez dit, oui, en 2012, le rugby intègre le protocole commotion et donc le carton bleu. C'est un carton que possède l'arbitre, donc l'arbitre en sa possession, avec le carton jaune et le carton rouge. Lorsqu'il sort le carton bleu, le joueur sort et est soumis à un protocole commotion. Donc c'est suite à un choc qu'il reçoit, donc sur un plaquage ou sur une percussion. Et donc le joueur sort à 10 minutes pour réaliser ce test, ce protocole commotion. Et en fonction du résultat, il aura le droit ou non de revenir sur le terrain. Donc déjà, on a la vidéo qui nous permet de revoir le choc sur l'écran géant et pour l'arbitre et pour le staff médical, pour aussi sanctionner le joueur s'il y a eu mauvais geste. Et la fédération a pour projet d'inclure un capteur donc, sur le corps, donc soit dans la brassière avec le GPS ou soit devant au niveau du cœur, pour mesurer l'intensité du contact. Et à partir d'une certaine intensité, je ne saurais pas vous dire laquelle, à partir d'une certaine intensité, le joueur n'est même pas soumis à un protocole commotion, il sort et ne revient pas.
Et alors, qu'est-ce que ça amène par rapport aux tests actuels, qui sont des tests qui relèvent beaucoup plus d'une forme de dialogue entre le joueur et le médecin?
En fait, comme tout joueur, quand on a un gros match, on n'a pas envie de sortir du terrain, que ce soit par rapport à une blessure ou autre. Et en fait, le protocole commotion reste toujours le même, avec peut-être les chiffres qui changent. Par exemple, quand le médecin nous donne, en fait, il y a un test où le médecin nous donne une suite de 5 nombres et qu'on doit la redire dans le désordre. Et donc, en fait, à force de réaliser ce test commotion sous protocole, bah, on retient les étapes à réussir pour revenir sur le terrain.
D'accord, donc le numérique permettra potentiellement à terme d'objectiver la gravité d'un traumatisme. Carl, diriez-vous que, en plus de contribuer à la construction de vos performances, la collecte de ces données numériques a ajouté une dimension ludique à votre quotidien sportif qui est souvent assez ingrat, enfin, parfois de grande joie, mais aussi des entraînements qui peuvent être parfois assez ingrats. En gros, est-ce que ça permet de vous challenger au quotidien, de vous comparer les uns les autres, etc., d'introduire une forme de jeu entre vous ou avec vous-même?
Oui, bien sûr, c'est vrai que pour y revenir, c'est que la natation, je pense que c'est moins ludique qu'un sport collectif. Comme le rugby, voilà, on compte un peu les carreaux sous l'eau. Mais non, je trouve, j'en ai pas parlé. On utilise parfois des oreillettes en fait, qu'on met pendant qu'on nage et qui est connectée avec un micro cal entraîneur. Et donc, pendant qu'on nage, il peut en direct donc, nous corriger, nous donner les temps de passage sur un 400 mètres, par exemple, nous dire à quelle allure on est. Donc, corriger en direct. Donc, je trouve que bah, plutôt que de nager tout seul dans sa tête, c'est plutôt ludique voilà, de pouvoir communiquer avec l'entraîneur. Donc, voilà, sur ce, on va dire, voilà, sur cet instrument, en tout cas, c'est plutôt ludique.
Sur le VBT
Oui, donc le VBT sur la vitesse de barre, bien sûr, aussi, c'est plutôt amusant voilà, de pouvoir comparer nos vitesses avec les autres athlètes pour savoir un peu qui soulève le plus vite. Mais voilà, au-delà de ça, ça va vraiment nous donner des informations concrètes sur la force qu'on a gagnée.
Même question pour vous, Elias. Plus ludique ou pas?
Ouais, c'est vrai qu'à chaque fin d'entraînement, on compare nos données avec les joueurs de nos postes. Moi, je dirais pas ça plus ludique, mais... On est tous un peu pareil, on aime bien être devant son concurrent et ça donne surtout plus d'arguments quand on ne joue pas ou un peu mis de côté.
D'accord. Alors, bon, la dimension ludique, du coup, elle ne semble pas forcément évidente pour vous. Est-ce qu'on peut, au contraire, parler d'une forme de tyrannie de la data, c'est-à-dire d'une forme de contrôle permanent auquel on a du mal à échapper et qui peut parfois être pesant? Dans de nombreux univers, on voit que l'intégration de technologies numériques, la collecte de données est un sujet controversé. Je fais par exemple référence au GPS des chauffeurs-livreurs qui avaient contesté le fait qu'on soit toujours en permanence au courant de l'endroit où ils sont, du rythme de la progression, de leur tournée de livraison, etc. Est-ce que vous ressentez ça?
Mais comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne peut pas tricher avec ces GPS. Mais pour moi, c'est le jeu. On est maintenant rugbyman professionnel, donc on se doit de remplir certains objectifs sur certains entraînements. Et c'est pas négociable. Après, c'est sûr que parfois, on est un peu plus fatigué que d'autres. On n'a pas envie d'être le dernier aux accélérations, par exemple. Et donc, il est arrivé que certains éteignent leur GPS, mais ça ne dure pas très longtemps parce que les données, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en live sur les tablettes. Et donc, dès que le GPS est éteint, le prépa physique s'en rend compte. C'est sûr, il y a un laps de temps de 5-10 minutes, mais il s'en rend compte et il vient le rallumer tout de suite.
D'accord. Donc, on peut tricher un peu, mais pas trop.
Après, l'avantage de ça, c'est que quand on a des limites sur les mètres parcourus, si j'éteins mon téléphone pendant pendant 5 minutes, et ben en fait le prépa physique ne saura jamais si pendant ces 5 minutes j'ai couru 2 mètres ou si j'en ai couru 200. Et donc il va me mettre dans la moyenne de l'équipe et donc j'aurai pas de rattrapage à la fin de la session d'entraînement.
D'accord, donc ça marche quand même. Il
ne faut pas le faire tout le temps.
Non. Usez avec modération. Karl, dans votre cas, est-ce que vous avez le sentiment d'être en permanence mesuré, quantifié, contrôlé? Comment vous vivez ça?
J'ai pas le sentiment, c'est vrai qu'au début, quand on commence, on a un peu beaucoup d'appréhension, mais voilà, encore une fois, à partir du moment où on devient professionnel, bah, ça devient une habitude à avoir tous les jours. Et en fait, on l'utilise dans le cadre de la construction de la performance. Donc, comme on l'avait vu tout à l'heure, pour les footballeurs, au début, c'est un peu compliqué, mais après, au fur et à mesure, on s'adapte et voilà, c'est fait pour nous, donc on utilise ça.
D'accord. Et est-ce que vous diriez qu'il y a un bon usage et un mauvais usage de ces données numériques ou de ces objets connectés?
Pour moi, il y a des deux. En fait, je veux dire que la vidéo, forcément, c'est un très bon usage. Pareil pour le VDPT, après je reviendrai plus sur le HRV. C'est vrai que en fait, tout ça reste des données et il ne faut pas oublier en fait, le sportif en lui-même. Donc, par exemple, si le HRV me dit que je n'ai pas une très grande forme, voilà, faut pas que ça devienne négatif pour moi. C'est certes une information, mais après, au-delà de ça, il y a tout ce qui est ma capacité physique, le mental que j'ai. Voilà. Donc, faut faire attention à pas être tout le temps relié à ces données H24 et pas faire des mauvaises interprétations des choses en fait, parce que je pense que ça peut très vite tourner au négatif. Et voilà, faut toujours rester sur la base que c'est le sportif qui construit sa performance et ces données sont des outils qu'il va utiliser tout au long de sa carrière.
Vous nous donner un exemple de situation dans laquelle vous avez eu le sentiment que les données pouvaient potentiellement vous perturber?
Oui, bah, par exemple, à l'approche des championnats, voilà, si on fait encore une fois un HRV, je peux me sentir bien moi, et au final, mon coach va me dire que mes capacités à l'effort sont un peu réduites ou que mes capacités de récupération ne sont pas très bonnes, pourtant je vais me sentir bien. Donc voilà, encore une fois, c'est des données, donc il ne faut pas y faire attention. Enfin, il faut les prendre en compte, bien sûr, mais dans une certaine modération.
Yes, même question pour vous.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs en travaillant avec ces données. Ça permet vraiment d'optimiser la performance, de contrôler la charge de travail, le niveau de fatigue et de prévenir surtout les blessures.
Et non. Ou du positif.
Oui, plutôt du positif.
D'accord. Sinon, on vient à présent à une thématique qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est celle de la vie personnelle, c'est-à-dire de cette, quand on est sportif de haut niveau, de cette difficulté à cloisonner vie personnelle et vie professionnelle. Est-ce que dans votre vie personnelle, vous collectez également des données sur vous, sur votre sommeil, sur votre alimentation, sur votre activité physique en dehors de l'entraînement?
Oui, tous les matins, on a ce qu'on appelle le monitoring. Donc, la qualité de sommeil, le niveau de courbature par rapport à la veille, l'humeur de la journée. Et il y a un dernier truc que j'ai oublié, mais tous les matins, on remplit donc un questionnaire qui est directement destiné au prépa physique et au coach pour préparer l'entraînement de la journée. Et donc, en fait, en fonction de ce qu'on répond, à notre arrivée au stade, le préparateur physique va venir nous voir pour nous dire, OK, tu te sens comme ça aujourd'hui, alors tes objectifs sont 1000 mètres en dessous des objectifs de l'équipe, ou au contraire, 1000 mètres au-dessus des objectifs de l'équipe.
D'accord. Est-ce que vous avez une montre connectée?
Oui, moi j'ai une montre connectée, ouais, c'est une Samsung Watch. Et donc,
Et quel usage vous en faites?
je contrôle mon sommeil, donc le temps de sommeil, le nombre de battements de mon cœur pendant le sommeil, et si je fais de l'apnée ou non.
D'accord. Ok. Alors, même question pour vous.
Idem par rapport à l'IAS, on a tous les jours un wellness, donc on a un wellness à remplir. Donc il y a la forme. Donc en fait, c'est ce de 1 à 5 qui est la forme, la difficulté de l'entraînement, les différentes douleurs qu'on a en fonction des muscles, la qualité du sommeil, voilà, tout ce genre de choses. Donc encore une fois, voilà, une fois qu'on arrive à l'entraînement, donc le coach prend en compte ce qu'on a rempli, et en fonction de ce qu'on a rempli, bon, dans une certaine mesure, bien sûr, c'est pas nous qui faisons l'entraînement, mais on va adapter en fonction ou non l'entraînement.
L'idée de savoir ce que vous faites de ces données dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous connectez, est-ce que vous avez une montre de
Oui, j'ai aussi une montre connectée, bon, je l'ai pas avec moi, mais que j'utilise pendant le sommeil, qui va analyser mon sommeil. Donc voilà, après, concernant les données, moi, après, je sors un peu du cadre, mais je suis soumis à un pistage un peu de contrôle antidopage. Ça, c'est un peu plus compliqué, parce que je dois mettre, en fait, tous les jours où je me situe, et une heure dans la journée où je suis à un endroit fixe, pour qu'ils aient la possibilité de me contrôler. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, mais bon, encore une fois, c'est professionnel, donc faut le faire.
D'accord, donc en gros, on sait qu'aujourd'hui, vous êtes ici avec nous.
Pas
C'est
ici,
votre
mais en fait,
mardi
je mets
liberté.
plus un endroit où je dors, en fait, surtout l'endroit où je dors, pour qu'ils puissent me contrôler, en fait, le lendemain matin. Donc ça,
D'accord.
c'est un peu problématique parfois, mais bon.
Mais il y a
Avec.
des cas fameux sur ces questions-là, quoi. Elia, sur cette question du dopage, on en a pas parlé, mais elle est effectivement intéressante. Est-ce que enfin, les données qui sont collectées sur les questions de dopage, c'est quelque chose qui est important dans notre sport?
Et nous, surtout à l'approche de la Coupe du Monde de rugby, donc en septembre prochain, on est soumis à beaucoup, beaucoup de tests de dopage. Donc, parfois pendant l'entraînement, ils viennent que sur nos lieux de travail, donc soit pendant l'entraînement ou soit directement à la fin d'un match, selon les différents stades dans lesquels on joue.
D'accord. Et l'un comme l'autre, est-ce que les données athlétiques qui sont recueillies sur vous, sur vos performances, etc., sont étudiées pour éventuellement repérer des trajectoires d'évolution anormale de la masse musculaire ou des performances, ou ça pas du tout? Est-ce que vous êtes au courant, pas au courant?
Moi, je ne saurais vous dire.
D'accord.
Ouais, non, pareil. Je pense qu'elles sont pas analysées. C'est pas aussi poussé, je pense, qu'au foot. Donc,
D'accord. Est-ce que vous savez l'un et l'autre qui a accès concrètement aux données qui sont collectées sur vos performances? Est-ce que c'est inscrit dans votre contrat? Est-ce que vous avez des échanges là-dessus avec les staffs de votre club ou de votre équipe là? Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
Oui, après, par exemple, les vidéos, la fédération a accès aux vidéos. Concernant l'analyse de la variabilité, c'est un analyste qu'on a choisi au club, donc c'est lui qui a les données. Et voilà, après moi, mon notation, ça se résume à ça.
Et nous, les données d'entraînement, donc c'est-à-dire les vidéos d'entraînement et toutes les stats GPS d'entraînement restent en interne, donc restent au club. Il y a les prépas physiques qui ont accès, le staff médical et les coachs. Et après, les vidéos de matchs, nous, nos matchs sont diffusés donc sur une plateforme, et donc tous les clubs, tout le monde peut y avoir accès.
D'accord. Alors, je vous repose une question qui a été posée tout à l'heure par quelqu'un dans la salle. Est-ce que, peut-être à distance, ou est-ce que le jour où, par exemple, vous êtes transféré, c'était votre cas récemment, même si vous étiez encore jeune, mais le jour où vous êtes transféré, est-ce que ces données interviennent peut-être dans le fait qu'un club veuille vous recruter? À quelles données accède ce club-là? Est-ce que ça influe sur votre rémunération, sur la valeur éventuellement d'un transfert?
Mais nous, les clubs, lors d'un transfert, il n'y a aucun transfert de données. Et comme j'ai dit, toutes les vidéos sont accessibles. Actuellement, moi, quand je suis parti, par exemple, du Stade français, toutes nos vidéos étaient sur Huddle. Et donc, Huddle, on ne peut pas télécharger les vidéos. Même moi, je ne pouvais pas envoyer mes vidéos donc, de mes matchs jeunes au club qui souhaitait me recruter. Mais non, il n'y a pas de transfert.
D'accord. Donc, vous avez le sentiment que c'est quand même un peu sécurisé. D'accord. Pardon.
Non plus, il n'y a pas. Après, moi, j'ai pas.
Il n'y a pas de transfert.
Ouais, j'ai pas de transfert, mais généralement, on n'a pas trop de données à communiquer. Et voilà, lors de transfert, on peut se regarder nos performances sportives et notre technique, tout simplement. Mais pour revenir au foot, enfin, je trouve que c'est là qu'on voit que on est un peu en retard, je trouve, sur tout ce qui est donné. Je me rends compte, voilà, en tout ce que j'ai vu en communiquant, qu'en termes d'analyse des données, voilà, en natation, on est quand même un peu en dessous et en retard. Voilà, ce serait un point peut-être à améliorer au niveau de la fédération.
Alors, c'était ma question suivante. Quelles sont pour vous les améliorations, les points concrètement qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce que ça vous amènerait? Et puis aussi, pourquoi est-ce que la natation, vous avez le sentiment que la natation est en retard par rapport à d'autres sports? Est-ce que vous voyez des raisons à ça?
Sur le retard, je pense que, au-delà du foot, je pense que tous les sports sont un peu en retard, j'ai l'impression, en France, en termes de collecte de données. Voilà, au moins, il y a plein d'améliorations à faire sur la collecte de données. En fait, je pense que c'est plus sur le suivi quotidien où il faut s'améliorer. Je pense qu'on a un peu trop les moyens là-dessus. Donc, voilà, sur le suivi quotidien des données, comme le foot, je pense que ça pourrait être intéressant.
Vous pouvez nous donner un exemple de suivi quotidien des données qui, à votre avis, pourrait être amélioré?
Je pense que ce serait à l'entraînement, voilà, essayer de plus. En fait, c'est assez expérimental ce qu'on fait. Donc, que ce soit le capteur pendant qu'on nage, celui-là, c'est assez expérimental. Il faudrait que ça se développe plus et qu'il y ait plus en fait, de données pour qu'on puisse avoir derrière des retours, faire des moyennes sur comment. Sur, en fait, je pense que ce serait pas mal que les clubs, tous les clubs de France utilisent ce type de données pour pouvoir faire un retour sur ça.
D'accord, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire à partir de quel niveau on utilise ces données dans votre sport?
Je les utilisais à partir du moment où j'étais en équipe de France. Donc avant, c'était pas très répandu. Donc je pense que ce serait bien de l'étaler à pas mal de niveaux, en fait. Voilà.
D'accord, on s'est réservé vraiment au très haut niveau.
Oui, voilà, c'est ça. On obtient tout ça à partir du moment où on entre en équipe de France. C'est vrai qu'avant, c'est assez minime. Donc je pense que ce serait pas mal d'intégrer ça sur des équipes de France juniors.
D'accord. Elias, dans votre sport, la collecte des données, il me semble beaucoup plus développée, à la fois historiquement, puis à la fois en termes de niveau. Est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles votre sport est venu assez tôt par rapport à d'autres dans ce développement de ce management scientifique de la performance? Et par ailleurs, réciproquement, comment est-ce qu'on pourrait améliorer encore aujourd'hui la collecte des données dans votre sport ou l'utilisation qui en est faite?
Moi, je pense que ça va aussi avec les performances de l'équipe nationale. Et donc, l'équipe de France, en ce moment, performe avec l'air, comme ils disent, Galtier. C'est un peu lui qui a instauré tout cet apport avec les données. C'est lui qui se fie beaucoup aussi à la charge de travail, aux courses à haute intensité. Donc, il a un peu amené cette nouvelle génération, comme si je peux dire. Et donc, nous, tout le monde y a accès. Donc, en fait, dès le plus jeune âge, moi, c'est à partir de 17 ans que j'ai commencé à avoir un GPS. Mais par contre, ce qui change, c'est l'accès aux résultats. C'est-à-dire qu'à 17 ans, j'avais un GPS, mais je n'avais pas accès aux données que le GPS avait récoltées. C'était uniquement pour le staff et pour le centre de formation. Alors que maintenant, en étant professionnel, je peux voir mes performances, je peux voir le nombre de mètres que je parcours pendant l'entraînement, le nombre d'accélérations que je fais, ma vitesse max, etc.
D'accord. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez le sentiment qu'il y a des trous dans la raquette?
Ben, moi, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, le capteur pour l'intensité des chocs peut être une bonne idée. Là, aujourd'hui, on peut déjà mesurer le nombre de chocs, donc le nombre de contacts qu'on fait pendant un match, mais on ne sait pas si c'est un plaquage ou si c'est une percussion, si on a vraiment un nom. Et donc, c'est sur ce point-là, moi, que je verrai une amélioration.
D'accord. Merci. Pour en venir à un sujet qui dépasse le cadre de la construction de la performance, mais qui est une composante importante de la vie d'un sportif de haut niveau, l'image, est-ce que vous êtes l'un et l'autre présents sur les réseaux sociaux?
Au départ, j'étais présent à titre personnel, je pense, mais de plus en plus, j'essaie de développer ça. Et je trouve que aujourd'hui, voilà, c'est vraiment je trouve un tremplin, par exemple, pour tous les sponsors, voilà, relayer les informations. Et je pense que voilà, ça peut vraiment être une aide sur ça. Mais encore une fois, je pense que je dois développer ça, mais ça reste encore minime.
Et quel contrôle vous effectuez sur ce qui est mis sur les réseaux sociaux sur vous? Est-ce que c'est vous uniquement qui gérez ça? Est-ce que quelqu'un vous accompagne là-dedans, par exemple votre fédération?
Généralement, bah, mon personnel, c'est moi qui gère. Après, il y a un compte du club et la fédération. Donc voilà, c'est globalement, enfin, c'est trois comptes qui gèrent un peu mon image. Mais après, j'ai pas de. Voilà, c'est moi-même qui gère mon image sur mon compte et j'ai pas encore d'aide là-dessus.
D'accord. Et la gestion de votre image, est-ce que vous la cantonnez à la sphère sportive ou est-ce que vous ouvrez à votre vie personnelle, peut-être?
Je pense que je fais un mix des deux. Voilà, j'essaie de mettre un peu. Bon, c'est très minime, mais ma vie un peu. Mais surtout beaucoup la natation. Voilà, surtout tenir au courant de mes championnats, de mes résultats, de mon avenir, de mes objectifs. Je pense que c'est important de permettre à ceux qui suivent d'avoir un maximum d'informations.
Ilias, même question pour vous.
Moi, c'est un petit peu pareil. Au début, c'était les réseaux sociaux, pour moi, c'était du divertissement. Et depuis quelques temps, je fais beaucoup plus attention à mon image, à ce que je poste, et surtout quand on m'identifie. Mais ouais, moi aussi, je pense que c'est pareil. C'est peut-être du 50-50 entre vie personnelle et vie professionnelle. Après, je dirais pendant certaines périodes, surtout beaucoup de professionnels, parce qu'il y a les compos qui sortent sur les réseaux, les vidéos de matchs. Donc parfois les belles actions. Et donc c'est à chaque fois qu'on est identifié, ça apparaît sur mes réseaux.
D'accord. Vous avez entendu tout à l'heure donc l'intervenant du FC Lorient qui évoquait l'idée que l'un des psychologues du club était spécialisé plus particulièrement dans l'analyse des réseaux sociaux, pour un petit peu ce qui était dit sur les joueurs, ce qui est une manière de probablement avoir des indications sur leur personnalité, sur un certain nombre de critères psychologiques qu'on aurait du mal à avoir par les data. Qu'est-ce que ça vous inspire l'un et l'autre?
C'est vrai que maintenant qu'on est professionnel, on est soumis à pas mal de critiques. Et là, à chaque compo, il y a beaucoup de gens qui se permettent de commenter, de donner leur avis. Après, moi, je trouve que c'est un peu la vie aussi du sportif de haut niveau, de faire plus ou moins attention à ce qui se dit sur les réseaux. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et quand on est reconnu dans la rue, c'est agréable.
Nous, concernant sur les réseaux, il n'y a pas trop de critiques ou quoi. On se fait rarement critiquer parce que je pense que c'est un peu moins suivi. Et puis, si on se fait critiquer, c'est, je pense, une disqualification ou un mauvais traitement. Voilà, mais globalement, non, on n'a pas de suivi sur ça. On gère plutôt nous-mêmes. Mais encore une fois, je pense que c'est à développer.
Pour terminer, j'aimerais revenir sur une question qui est aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de réflexions à l'INSEP, notamment en prévision des Jeux de Paris 2024, et qui est une question qu'on a évoquée très rapidement tout à l'heure sans vraiment la développer. La data permet de manière relativement évidente une objectivation de la performance, des aptitudes, etc. Comment est-ce que ces data s'articulent dans vos sports respectifs avec la question de la préparation mentale?
En répondant, moi, tous les matins au monitoring, je trouve qu'on est assez pris en considération déjà par rapport à ça. Quand on arrive le matin et qu'on se sent et qu'on se dit un peu fatigué, on ne fait pas tout le temps le même entraînement que l'équipe. Et moi, je trouve déjà que ça, c'est une bonne chose d'être.
Nous, au niveau de la préparation mentale, on a un préparateur mental. Mais on n'a pas forcément de relation par rapport aux données qu'on fournit, donc je pense que c'est plutôt à part.
Et quel type de travail vous faites avec cette préparateur ou préparateur?
On fait par exemple de la visualisation, donc on essaie de visualiser au maximum notre course, et c'est pas mal de réflexion un peu sur comment on aborde une compétition, comment préparer justement ce genre de compétition. Donc, voilà.
Donc vous avez le sentiment d'une certaine étanchéité entre ces deux composantes de la performance, quoi.
Oui, pour moi c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est deux choses différentes, la préparation mentale et toutes les données qu'on a tournées. Malgré tout, je pense qu'on pourrait faire justement un lien avec, bah nous, voilà, on est beaucoup par rapport au chronomètre. Et encore une fois, voilà, faut pas non plus faire de mauvaises interprétations de notre chronomètre. Généralement, on fait très attention au temps qu'on fait. C'est, voilà, c'est un sport en chronométrie, donc on fait très attention à ça. Et je pense qu'on peut vite tomber dans un cercle vicieux qui nous est très négatif. Donc on travaille beaucoup sur ça. Voilà. Essayer de se détacher un peu du chrono et oublier un peu ça.
Alors, pour terminer, peut-être, il y a cette question qui a été évoquée tout à l'heure. Je vous l'adresserai peut-être, Elias, puisque sur la préparation mentale, vous nous avez dit très peu de choses de ce qui se fait dans votre sport. On peut être très bon à l'entraînement, on peut être dans la bonne phase des blocs de match, etc., où normalement la performance est au maximum, etc. Si on joue un match important et qu'on tient mal la pression, que valent les datas? C'est-à-dire, sur le papier, vous êtes prêt, tout a été construit, etc., mais dans la tête, comment tout ça s'articule?
C'est un peu la limite des datas. Et moi, je trouve ça plutôt positif qu'on fasse encore plus attention à la performance rugbystique que aux données qu'on récolte tout au long de l'année. Après, c'est vrai que les data aident beaucoup pour la performance, les blessures, etc. Mais si on n'est pas bon le week-end pour telle ou telle raison, on ne sera pas réglé à être professionnel.
Ok, merci. Je propose qu'on ouvre maintenant les échanges à la salle ou à distance s'il y a des questions.
Une question pour Elias. Alors moi, j'avais pris connaissance de l'existence des protège-dents connectés pour justement mesurer les chocs. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé chez vous? Est-ce que ça vous parle?
Oui, ça me parle. C'est un projet qui a été lancé aussi pareil par la FFR. Après, le problème des protège-dents connectés, c'est que pas tout le monde en porte sur le terrain, parce que même si maintenant le protège-dents a évolué, il est plus fin qu'avant, ça empêche toujours de respirer, et donc il y en a qui préfèrent jouer sans.
Donc c'est pas du tout obligatoire, le protège-dents?
Non, le protège-dents n'est pas obligatoire. Okay. C'est très fortement recommandé, mais pas obligatoire. Un arbitre ne vérifie pas dans la bouche si on a le protège-dents ou pas.
D'accord. Et deuxième question, vous parlez des réseaux sociaux où ça se passait plutôt bien. Pas de violence verbale, pas d'insultes à votre égard sur les réseaux sociaux, et comment est-ce que vous pourriez être amené à répondre, pas à ce type de provocation?
Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Maintenant, dans mon équipe, ça c'est déjà arrivé sur des posts Facebook, donc suite à des compos, un tel ne joue pas, oh mais qu'est-ce qu'il est nul, en plein de choses comme ça. Et moi, je pense que personnellement, si ça m'arrivait, je répondrais soit pas très sérieusement, quoi, mais jamais en insultant, toujours dans le respect, ou alors je ne répondrai pas.
Ok, très bien.
Ma question porte sur le temps que vous prend l'exploitation, l'analyse des données dans votre entraînement. Est-ce que vous êtes, on peut identifier un temps où vous passez une proportion d'entraînement où vous analysez les données avec votre coach? Est-ce que c'est 10%, 15%, on ne sait rien. Et dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez une idée du temps que vous prend la collecte des données? Donc la réponse aux quatre questions, j'imagine que c'est routinisé et que ça doit être rapide. Mais est-ce qu'il y a d'autres données, collectes de données qui prennent plus de temps dans votre vie personnelle? Donc la place dans
Alors, nous, on s'entraîne tous les matins, donc on commence notre journée à 7h. On commence par une séance de muscu, ensuite on a le petit déjeuner, la collation, et ensuite on enchaîne avec une séance vidéo collective. Donc là, on nous annonce déjà toutes les données de la veille, donc soit du match ou soit de l'entraînement de la veille. Et ensuite, on a une vidéo donc faite par l'entraîneur, qui nous parle donc en début de semaine du match passé et en fin de semaine du match à venir. Ensuite, notre journée se finit à 13h. À 13h, on a le repas collectif, donc tout le monde ensemble au club. Donc à 14h, on est libre, mais on doit revenir l'après-midi pour faire une séance. Donc quand on veut dans l'après-midi pour faire une séance vidéo personnelle. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, à mon poste, en début de semaine, je vais regarder les mêlées qui se sont passées le week-end dernier et en fin de semaine, le week-end à venir, comment cette équipe pousse s'en mêler, quel axe de poussée, etc.
Carole, le temps. Nous, donc, concernant le temps dédié à ça, comme j'ai dit, pour la charrette, donc c'est 10 minutes après le réveil, on garde la ceinture, donc 5 minutes allongées et 5 minutes debout pour analyser. Ensuite, on envoie directement à l'analyste. Après, c'est beaucoup à la demande du coach. Donc, par exemple, s'il veut mettre les capteurs, on va les garder tout l'entraînement, donc pendant 2 heures. Et encore une fois, selon les séances, on a des séances dédiées à la vidéo, donc c'est, je pense, c'est très minime, mais je pense que c'est une fois toutes les 2 semaines, par exemple. Et après, en compétition, on a toutes nos courses sont filmées, et généralement, on fait le retour des courses directement après justement la course pour analyser directement. Donc je pense que je dirais que ça prend 10%, je pense, du temps d'entraînement.
Alors, j'ai une petite question également. Alors, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour vos témoignages. J'ai trouvé ça extrêmement stimulant, surtout d'un point de vue juridique. Là, moi, ça me questionne vraiment beaucoup sur le consentement, sur aussi l'hébergement des données, puisque je parlais de plateformes, etc., mais ce sont les Américains, en fait, hein, qui hébergent vos données. Donc, d'un point de vue de la sécurisation, ça pose des questions. Et aussi sur l'accès, comme vous l'avez dit, Anne, mais même pour vous, si vous avez vraiment accès à toutes vos données. Enfin, d'un point de vue juridique, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, j'allais tout à début vous demander si vous étiez prêt à renoncer en fait, à l'usage du numérique, mais j'ai vu que non, puisque vous avez dit que ce n'était pas négociable et que ça faisait vraiment partie aujourd'hui de votre univers à tous les deux. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à intégrer sous la peau, par exemple, des dispositifs numériques? Et donc, que ça fait partie intégrante de votre corps. Donc, le numérique vient, c'est plus juste accroché, mais ça vient vraiment être quelque chose qui fait partie de vous-même.
Une belle question qui s'y colle.
Alors, moi, comme ça, je vous dirais non. Après, depuis tout petit, je fais du rugby. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il y a des questions un peu comme ça qui fâchent, si je puis dire, on s'y soumet, en fait. Et parce qu'on veut tellement devenir.